Vous écoutez
RMC.
Merci de vous réveiller avec nous sur RMC. Bon dimanche, il est 8h.
RMC, la matinale week-end.
Votre journal avec Stéphane Geneste. Bonjour Stéphane.
Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous. L'enquête se poursuit en Russie après l'attentat qui a fait 133 morts vendredi soir à Moscou. Le Kremlin annonce l'arrestation des 4 assaillants présumés. Réveil difficile ce matin pour l'équipe de France de football après sa défaite 2-0 face à l'Allemagne hier soir. Et puis faites chauffer les braises, mettez-vous à l'aise de barbecue à la côte. En ce moment, ils s'en vont comme des petits pains. Les Français qui veulent des barbecues, oui, mais de qualité.
Dernier bilan, 133 morts après l'attaque d'une salle de concert de Moscou vendredi soir.
La Russie qui observe une journée de deuil national ce dimanche. L'enquête qui se poursuit en parallèle. Hier, le Kremlin a annoncé l'arrestation de 11 personnes, dont les 4 assaillants présumés, Kevin Gasser.
Oui, les autorités russes affirment avoir arrêté tous les auteurs de l'attaque, dont ces 4 individus qui tentaient de fuir vers l'Ukraine en voiture. Des citoyens étrangers qui auraient entre 30 et 40 ans, selon plusieurs médias russes. Des passeports tadjiks auraient été retrouvés dans le véhicule qu'ils conduisaient. Une chaîne de télé publique a diffusé de passage de leur interrogatoire. Deux d'entre eux reconnaissent les faits et un suspect dit avoir agi pour l'argent. Le groupe État islamique avait revendiqué l'attentat dès le soir de l'attaque. Selon plusieurs experts, il s'agirait d'une branche de l'organisation implantée en Afghanistan. La menace djihadiste qui pèse sur la Russie depuis plusieurs années en raison des opérations menées par son armée en Syrie et en Tchétchénie contre Daesh. Le groupe État islamique, actif dans le Caucase russe, avait déjà perpétré des attentats dans le pays depuis la fin des années 2010, mais jamais d'une telle ampleur.
Les dernières précisions de Kevin Gasser. Alors si l'État islamique a revendiqué ces attaques, Vladimir Poutine lui désigne de façon insistante la responsabilité supposée de l'Ukraine. À réponse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, il dénonce ces accusations qu'il qualifie d'absurdes pour provoquer l'escalade dans la guerre en Ukraine.
Et donc cette attaque de l'État islamique interroge à 4 mois pratiquement jour pour jour de l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris.
Et on le sait, l'événement va être sous haute sécurité, les autorités le savent. Cet attentat rappelle que Daesh a retrouvé sa capacité de projection. Sofiane Aboubekir est le président de l'Association des métiers de la sécurité.
La menace islamiste, elle est réelle. On déjoue des attentats tous les ans sur notre territoire avec des situations qui pourraient ressembler à des tueries de masse, comme la Russie le connaît depuis hier, mais comme on l'a connu au Bataclan. Et c'est d'ailleurs pour ça que nos services opérationnels, donc il y a le renseignement, puis il y a les policiers sur le terrain, qui se préparent justement dans le cadre des JO qui arrivent à pouvoir intervenir, y compris en réaction à un attentat terroriste. Pour la préparation, il y a effectivement des répétitions qui ont lieu sur un certain nombre de points stratégiques et sensibles pour permettre aux forces d'intervention, de réaction, de pouvoir intervenir.
Et justement, la crainte d'attentats dans des lycées français est toujours vive ce matin. Après des premières menaces d'attentats dans une quarantaine de lycées cette semaine, de nouveaux établissements scolaires ont été visés ce week-end, notamment dans les Hauts-de-France, où des messages ont été envoyés aux élèves sur leurs espaces numériques de travail, les ENT, Mathis Caron.
Lundi, 122 établissements vont exploser. C'est le message reçu par les parents d'élèves d'un collège lillois sur leur espace numérique de travail piraté par un individu qui se revendique de l'État islamique. Les accès aux ENT ont été suspendus dans la foulée, comme dans une centaine d'autres établissements menacés à travers la région. Des dépôts de plaintes vont être effectués par les différents rectorats. Malgré ces messages, les préfectures indiquent que les collèges et lycées vont ouvrir leurs portes demain en présence de forces de police et de gendarmerie. Une cinquantaine d'établissements d'Île-de-France a subi une vague de menaces similaires en milieu de semaine via l'envoi sur leur plateforme ENT de menaces d'attentat accompagnées d'une vidéo de décapitation.
Mathis Caron pour RMC.
Il est 8h04 sur RMC. Nous sommes à 2 ans des élections municipales et un premier sondage ce matin détonne pour la course à la mairie de Paris.
Et bien effectivement Mathieu, si l'on en croit ce sondage Ipsos publié chez nos confrères du journal La Tribune dimanche ce matin, c'est Rachida Dati qui l'emporterait. En tout cas, ce serait ce scénario si les élections avaient lieu dimanche prochain, Clara Gabillet.
Oui, la ministre de la Culture arriverait en tête des intentions de vote pour les prochaines municipales de 2026 et de loin dans tous les scénarios possibles. Le premier, c'est que Rachida Dati se présente comme la candidate d'une union entre les Républicains et Renaissance. Dans ce cas, elle obtiendrait 38% des voix avec 20 points d'avance sur l'éventuel candidat des Verts, Yannick Jadot. Anne Hidalgo n'obtiendrait que 14% des suffrages. Autre scénario envisagé, que l'ancienne candidate à la mairie de Paris mène une liste Les Républicains, toujours soutenue par Renaissance. Là encore, elle l'emporterait au moins avec 33% des voix et ses concurrents ne dépasseraient pas les 18%. En fait, Rachida Dati semble garder le soutien des électeurs républicains malgré sa nomination dans le nouveau gouvernement de Gabriel Attal. Et la grande perdante, sa rivale Anne Hidalgo, perdrait la mairie de Paris dans tous les cas de figure après 10 années passées à l'hôtel de ville.
Décryptage signé Clara Gabillet. Le foot à présent avec cette soirée à oublier ou au contraire à garder en tête afin de s'améliorer pour l'équipe de France. Hier soir, ils ont perdu 2-0 face à l'Allemagne. Alors comment expliquer cette déroute des Français, Arthur Perrault ?
L'équipe de France est passée à côté de son match, un but encaissé dès la 7e seconde de jeu du jamais vu dans l'histoire des Bleus. Aurélien Tchouaméni, milieu de terrain.
Je pense qu'il y a une incompréhension un peu entre toute l'équipe, entre certains qui pressent, d'autres qui restent un peu derrière. Après, il met une super frappe, c'est sûr qu'on s'est fait cueillir à froid et ça a donné le ton du match.
Aucun joueur n'était au niveau, l'absence d'Antoine Griezmann a pesé et les cadres à l'image de Kylian Mbappé n'ont pas répondu présent. Didier Deschamps, le sélectionneur, endosse la responsabilité.
Je m'en serais bien passé, mais c'est un rappel. En disant ça, je ne charge pas les joueurs, puisque le premier responsable c'est moi, mais l'évidence, et c'est factuel, c'est qu'on n'a pas su se hisser à la hauteur du match qui nous attendait aujourd'hui.
Une défaite et une piqûre de rappel pour les Bleus qui restent favoris du prochain Euro. Réaction attendue mardi contre le Chili.
Oui, les Bleus qui reçoivent le Chili en Vélodrome à Marseille mardi soir, rencontre que vous vivrez sur RMC. Et on l'a vécu justement ce matin en fil rouge dans la matinale week-end, le Grand Prix d'Australie avec la victoire de l'Espagnol Carlos Sainz chez Ferrari devant son coéquipier Charles Leclerc. Lando Norris chez McLaren complète le podium. Et ce qu'on retient surtout, c'est l'absence de Max Verstappen. Et à raison, le Néerlandais a dû abandonner au bout du troisième tour en raison d'un problème mécanique sur sa Red Bull.
Et puis on peut le dire, c'est un sport pour certains, un plaisir pour beaucoup, le barbecue.
Alors imaginez la marque de la grille sur la viande, une fine goutte qui tombe sur le charbon bouillant et puis la fumée qui enrobe sa saveur de cette belle pièce.
Ah, on a affaire
à un prêt pour un bon barbecue, les merguez et les petits légumes à côté. Ah, parce que le barbecue à la côte en France, il s'en vend beaucoup. Les Français qui privilégient les appareils haut de gamme, finis le baril coupé en deux dans le fond du jardin avec des brindilles de bois dedans. Reportage au cœur du salon du barbecue, il se tient jusqu'à ce soir à Paris. Reportage signé Anna Huot.
Attiré par l'odeur de grillade et le crépitement des braises, Jérôme est venu ambulé dans les allées du salon jusqu'à trouver son barbecue idéal.
Là, ce qu'on a vu, on est dans les 3000 euros. Mais bon, c'est quelque chose où on peut se permettre de mettre le prix parce qu'on sait que derrière, ça fera des bons moments entre amis et en famille.
Un budget élevé aussi pour Rodolphe, prêt à dépenser environ 2000 euros. Une montée en gamme pour une montée en goût.
On n'est plus dans le barbecue traditionnel où on faisait de la côtelette ou de la merguez. Là, on arrive à des cuissons qui sont plus lentes, plus longues, avec des saveurs qui sont totalement différentes de ce qu'on faisait avant.
Et cette hausse du budget est une tendance de fond que constate Franck Froger, le président de la marque Weber Stephen.
Il y a plutôt une augmentation de la valeur ajoutée par unité vendue. Les gens aiment de plus en plus profiter de l'extérieur de leur jardin et donc on a une vraie tendance sur la cuisine à l'extérieur. Les gens également vont utiliser le barbecue de manière beaucoup plus régulière au cours de l'année. Ils utilisent leur barbecue, y compris en octobre, novembre, décembre.
Les barbecues coûtent également plus cher en raison de l'inflation des matières premières, notamment l'acier et l'aluminium, indispensables à leur fabrication.
C'est la merguez.
Les musclés sur RMC.
Eh ben, vous n'entendez pas moins que vous, Stéphane Jeunesse. Vous avez une viande favorite, celle que vous savez le mieux cuisiner au barbecue?
Ah bah la pièce de bœuf.
Ah bah voilà. Ouais.
Non, mais ou l'andouillette, c'est selon.
Ouf.
Bon réveil.
Non, je prends le bœuf, moi.
Un bon déjeuner du dimanche midi chez Stéphane Jeunesse. Non mais on a posé la question à nos auditeurs. Qu'est-ce qu'on a? On a Véronique. Ah oh, bah oui, les pommes de terre enrobées dans du papier alu avec des herbes de Provence, un filet d'huile d'olive. On oublie ça sur les braises, ça marche aussi avec d'autres légumes. J'ai aussi des gambas avec tiens, du camembert et des chamallows au barbecue.
Ah oui. Bah, ça me rappelle, c'est pour vous ça.
Ça m'appelle les colos, les chamallows au barbecue. Ah, puis Daniel a la solution pour vous, Peggy. Il a installé un tournebroche sur son barbecue au feu de bois et les poulets grillé que
bah,
vous
c'est
adorez.
Nickel.
Simple à faire et délicieux.
Voilà, je vais m'inviter chez les auditeurs en fait.
On se régale ce matin. Vos meilleures recettes de barbecue, vous continuez, n'hésitez pas. Merci Stéphane Jeunesse. Il est 8h09.
RMC, la matinale week-end. Le 10 minutes chrono.
Un beau séjour de 2 jours et 2 nuits, encore une fois, à vous offrir ce matin.
À l'hôtel Port Camargue, situé sur la plage, en plus à la lisière de la Camargue, vous aurez la possibilité de bénéficier de soins d'eau de mer, de massages, vous aurez accès au spa marin, au hammam, au sauna, bref, le bonheur. Vous pouvez aller d'ailleurs sur le site thalazur.fr pour avoir plus d'infos.
Le 32-16, la touche 4, ou le mot matin pour par SMS au 7-32-16, matin par SMS au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Tirage au sort, gagnant ou gagnante, avec nous avant 8h30. Bonne chance à vous.
À suivre dans la matinale week-end.
L'écrivain russe Vladimir Fedorovski, il est avec nous au lendemain de l'attentat de Moscou. Quel regard porte-t-il sur Poutine qui tente d'imposer sa vérité? Rendez-vous tout à l'heure à 8h40.
À 8h20, la story sport avec vous Antoine Salva. Bonjour, de quoi parle-t-on?
Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, ce matin, je vais vous parler du jeûne en particulier, celui du Ramadan qui pose quelques problèmes dans le foot professionnel entre respect de la laïcité et liberté des individus. Certains parlent de discrimination. C'est le cas d'Habib Bey, l'entraîneur du Red Star.
D'abord, cette onde de choc au Royaume-Uni et l'émotion dans le monde qui remercie Kate Middleton d'avoir parlé. A-t-elle eu raison de rendre public son cancer? Est-ce que ça soulage les patients qui traversent la même épreuve qu'elle? On en parle avec vous, avec vos témoignages. Le 32-16 est ouvert, on se retrouve dans deux minutes.
RMC jusqu'à 9h30, la matinale week-end.
Mathieu Rouault. Bon dimanche à l'écoute d'RMC, il est 8h13.
Le témoin RMC.
Et vous êtes nos témoins de l'actualité ce matin sur RMC.
L'actualité, c'est la princesse de Galles qui a donc annoncé avoir entamé une chimiothérapie préventive pour soigner un cancer, qui remercie avec son mari William de tous les témoignages de soutien qu'elle reçoit depuis. Elle a conclu son intervention vendredi soir en appelant ceux qui luttent comme elle contre la maladie à ne pas baisser les bras. Alors, est-ce qu'elle a eu raison de rendre publique sa maladie? Est-ce que ça peut aider ceux qui traversent ou ont traversé la même épreuve? On vous pose la question ce matin au 32-16. Vous êtes les bienvenue. Et avant de vous donner la parole, écoutons l'onde de choc à Londres, l'émotion au Royaume-Uni, au micro de BFM TV.
J'ai été très surprise parce qu'on a toujours l'impression que le cancer touche les autres. Cela ne m'a jamais traversé l'esprit que le cancer puisse toucher une personnalité politique, une célébrité.
Avec toutes les spéculations qui allaient bon train, nous savions que quelque chose n'allait pas. Mais c'est terrible que ce soit quelque chose d'aussi grave.
C'est vraiment inspirant, d'autant plus qu'elle est courageuse de le dire. Et je suis sûre qu'elle a inspiré beaucoup de gens en l'annonçant.
Elle a inspiré beaucoup de gens en l'annonçant. Est-ce que c'est le cas? Encore une fois, vos appels sont les bienvenus. Marie-Ève est avec nous. Bonjour, bonjour. Marie-Ève.
Oui, bonjour. Bonjour à toute l'équipe.
Merci d'être avec nous. Vous êtes formatrice pour adultes en anglais. Marie-Ève, oui. Fidèle d'RMC. Je me souviens d'une époque où vous viviez au Royaume-Uni, Marie-Ève.
En Irlande.
Pardon. Vous avez raison de faire cette distinction, mais l'attachement à la famille royale est là aussi en Irlande. Comment vous avez réagi à cette vidéo de Kate Middleton?
J'ai été très touchée qu'elle l'annonce publiquement et qu'elle prenne le temps de faire cette vidéo. Et je pense qu'elle a eu raison de le faire. Ça l'a montré un peu plus humaine. Et puis de toute façon, les polémiques étaient tellement importantes. Il y avait tellement de spéculations sur son état de santé.
Ça a fait taire les rumeurs, au moins pour ce point-là. On entendait des Londoniens qui disaient « Elle va inspirer ceux qui traversent la même épreuve ». Vous avez le même sentiment ?
Oui, je pense que c'est toujours une épreuve très difficile. Moi, je suis passée par là aussi il y a 3 ans. Et c'est forcément toujours bien quand une personnalité aussi connue qu'elle, qui est malheureusement touchée par cette maladie, en parle. C'est très important de faire de la prévention et d'en parler, d'expliquer ce que c'est. Et je pense qu'elle a vraiment bien fait.
Vous en avez parlé facilement, vous, autour de vous?
Oui, moi je l'ai dit tout de suite, on était en période de Covid, donc moi j'étais en Irlande et j'ai dû l'annoncer à mon entourage par téléphone.
Mais alors, du coup, si vous étiez en période de Covid, vous avez un peu vécu ça seule, j'imagine?
Alors non, parce que au moment où j'ai été diagnostiquée, j'avais déjà prévu de rentrer en France. Je rentrais pour un nouveau poste et j'avais décidé de quitter l'Irlande pour rentrer en France et retrouver ma famille.
Donc vous avez fait les soins ici, en fait.
Donc j'ai fait une première opération en Irlande, mais quelques mois plus tard, quand j'ai commencé mon protocole de soins, je me suis fait prendre en charge en France. Ouais.
Il y a deux nouveautés au sujet du cancer qui sont peut-être imbriquées les unes dans les autres. Les médecins disent qu'ils voient de plus en plus de cas de patients de 40 ans ou moins. Et puis, effectivement, cette parole qui se libère, c'est aussi peut-être parce que cette maladie est de plus en plus répandue que l'on n'ose plus en parler. Vous disiez, Marie-Ève, les personnalités, là, c'est même une première mondiale, en quelque sorte. Il y a eu le roi Charles III, il y a quelques semaines. Jamais on n'aurait imaginé, je pense, la reine Elisabeth II dire publiquement sa maladie, si elle avait été touchée par ça, il y a encore une dizaine d'années. Là, oui, ce sont des personnalités connues au niveau mondial.
Ouais, je pense que les réseaux sociaux font que, dans un sens, elle a pas eu finalement tellement le choix. Et c'était, c'est vraiment bien qu'elle l'ait fait, qu'elle ait pris la peine de faire cette vidéo toute seule, où elle explique vraiment très brièvement, parce qu'on sait toujours pas exactement quel cancer elle a. Elle parle d'une chimio préventive. Bon, on verra bien.
Après une chirurgie abdominale.
Voilà, la chimiothérapie, c'est toujours difficile de toute façon, donc préventive ou pas, voilà, c'est toujours un moment compliqué, mais je pense que voilà, c'était le fait d'être transparent avec toute la population britannique et puis le monde entier, parce que ça fait trop de polémiques. Et moi, j'ai entendu des théories, on parlait de complot juste avant,
oui.
Voilà, ça prend une ampleur complètement folle, donc c'est bien. Et,
elle en parle voilà. Au monde entier, et en même temps, elle demande de l'intimité qui est essentielle aussi pour le soin. Restez avec nous, Marie-Ève. Stéphane est là. Oui, Marie-Ève.
J'ai juste quelqu'un qui veut vous dire bonjour.
Ah, allô ?
Bonjour.
Oh, bonjour, mais qui est là ?
Dis ton prénom. Je m'appelle Gabriella.
Bonjour, Gabriella.
Tu as quel âge ?
6 ans.
Oh. Et une auditrice d'RMC.
On est ravis.
Oui.
Bah on te fait de gros bisous, Gabriella.
Elle vous fait de gros bisous aussi. Elle ne comprenait pas pourquoi moi, j'ai le droit de passer à la radio.
Et on accueille tout le monde, quel que soit l'âge. Hein, vous le savez, Marie-Ève.
Exactement. Donc, elle est ravie. Elle est en train de sauter de joie dans l'appartement.
Prends bien soin de ta maman, Gabriella.
Oui, elle prend bien soin de moi. Et je fais juste, j'en profite comme je passe à l'antenne, pour faire un gros bisou à toutes les référentes et les bénévoles de l'association Vivre comme avant. Qui rendent visite aux patientes de cancer du sein qui viennent de se faire opérer et qui ont un rôle très important et elles sont formidables et je voulais juste en parler et faire leur pub.
Merci à vous de les avoir citées, Marie-Ève. Stéphane est donc là aussi. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Dans l'Oise, vous aussi, récemment, Val d'Oise, à chaque fois. Hein. Je crois qu'à chaque fois. Parce que je lis Mairie-sur-Oise, donc c'est Oise. Bon, ouais, Stéphane, vous aussi touché récemment par cette maladie dans votre entourage.
Oui, mon frère a perdu son neveu aux côtés de sa femme, à 32 ans, en 3 mois.
Oh là, 32 ans.
En 3 mois,
un cancer foudroyant.
Ouais, en 3 mois, une tumeur au poumon. Voilà, c'est vrai que moi j'ai vécu, bon, mon père a eu deux cancers, mais il est toujours présent, ce que je disais à Adrien. C'est une génération, je ne voulais pas en parler, tu vois. Et là, Mansou, grosse bise à Mansou. Et voilà, en 3 mois, on chope quelqu'un qui chope une tumeur au poumon, non fumeur, non buveur, 32 ans. 3 mois, et on essaye d'être positif. Forcément, comme vous dites, c'est important d'en parler. Mais moi, je travaille avec mon frère, hein, donc tous les jours, on en parlait. Hein. On savait que c'était il n'allait pas s'en sortir. C'est con à dire ce que je dis. Mais on positivait, parce que quand tous les soirs, quand il partait, on dit, bah, allez, tu dis à Mansou, voilà, faut qu'il résiste, il va à une dose, allez, ils vont finir par la tuer, cette saloperie, et puis il va s'en sortir.
Oui, parce qu'on dit toujours que le moral est important, en fait, oui, et que ça fait partie de la guérison.
Oui. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais à l'intérieur de nous, on savait, mon fils est cardiologue, il m'a dit c'est une saloperie, ça sent pas bon.
Ce que je retiens quand même, Stéphane, c'est que c'est aussi important d'en parler avec le malade que entre personnes proches, en l'absence du malade. Ça fait du bien à tout le monde de parler, quoi qu'il arrive.
Oui, alors je sais pas, ils ont pas. Il y a eu un problème aussi dans le discours, c'est que. Comment dire ça? Il est parti, rien n'a été préparé. Bien sûr, on ne pense pas qu'il va partir.
Oui.
Mais quand c'est arrivé le départ, là, le choc est encore plus dur parce que rien n'a été fait, parce que j'étais célibataire, en France. Et l'hôpital, il était à Gustave Roussy, hein, quand même. Hein, c'est
le plus grand centre de traitement du cancer.
Il manque de la psychologie, vous voyez? Voilà.
C'est ce que je voulais dire. Pas assez accompagné psychologiquement au cas où, c'est ça.
Je dis à tout le monde que faut se battre parce que bon, il y en a qui partent, mais il y en a qui résistent, comme la dame d'avant et d'entendre sa petite fille, c'est cool.
Merci beaucoup Stéphane et merci aussi à Marie-Ève. Vos témoignages sont nécessaires, utiles, essentiels ce matin. En parler, ça fait désormais partie du soin et c'est aussi ce que nous disait l'un des professeurs que nous recevions il y a quelques semaines à l'annonce du cancer de Charles III. Voilà pourquoi nous avons voulu à nouveau ouvrir le 32-16 sur ce sujet ce matin. Excellent dimanche, merci de votre fidélité à RMC. Il est 8h22.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
On est ensemble jusqu'à 9h30 et c'est l'heure du sport.
RMC,
la story sport.
L'histoire sport du jour avec Antoine Salva.
Bonjour Antoine.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu.
Alors que le ramadan débuté le 11 mars dernier est au cœur d'un large débat au sein du foot français, plusieurs voix s'élèvent pour dénoncer des discriminations.
Habib Bey, ancien joueur de l'OM et actuel entraîneur du Red Star en national, s'est exprimé sur ce sujet.
Oui, c'était vendredi soir après le match nul des Odoniens partout face à Nancy en conférence de presse.
Ce qui m'ennuie, c'est la discrimination religieuse et ça en est une parce que on stigmatise une religion et si on fait ça, alors à un moment donné, il faudra l'appliquer sur toutes les religions. Et ça me dérange. Donc j'ai déjà pris cette position, je la reprends aujourd'hui et je suis très fier que mes joueurs se retrouvent dans leur foi.
Habib Bey regrettait que l'on perçoive les institutions, notamment la pratique du jeûne, seulement comme un inconvénient. Précision, lui, non pratiquant, est issu d'un couple mixte, musulman et catholique. Le coach ajoute que son effectif est aujourd'hui composé de 26 joueurs, dont 19 sont actuellement concernés soit par le ramadan, soit par le carême. L'ancien international sénégalais explique que le club accompagne ses joueurs dans leur foi. Il y voit même un avantage.
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voit que les inconvénients. Moi, je vois que les avantages. Ça crée de la cohésion. Ça crée aussi des discussions. Ça crée aussi une solidarité que peut-être les gens ne voient pas sur un terrain de football.
Et cette sortie de l'entraîneur du Red Star intervient dans une semaine où la thématique est beaucoup revenue sur le devant de la scène.
Et oui, un peu plus tôt vendredi, un autre axe international sénégalais s'est exprimé. Dembaba, actuel conseiller sportif de Dunkerque en Ligue 2, il dénonçait la chasse aux musulmans sur les réseaux sociaux. Selon lui, refuser des facilités dans le style de vie passe encore, mais l'ancien de Chelsea va plus loin. Pour lui, c'est une partie de l'identité que l'on essaye d'effacer.
Alors, beaucoup de passion autour de ce débat, Antoine, mais qu'en est-il dans les règlements ?
Alors, pour tenter d'entourer la pratique de haut niveau, la Fédération française de football a défini un cadre de neutralité basé sur les principes de laïcité. Il s'applique à toutes les sélections des jeunes jusqu'au A et offre la possibilité de décaler le jeûne en fonction des impératifs sportifs, car oui, la pratique du jeûne a forcément quelques implications physiologiques. Le principe est simple, pas de modification des conditions de stage. Ce sont les joueurs qui doivent s'adapter et non l'inverse. Plus globalement en France, il n'est pas prévu de pause particulière dans les matchs, principe défendu par notre confrère de l'After, Daniel Riolo.
Autant je suis pour que on fasse dans un club pour le mieux, pour que tout le monde se sente bien avec sa religion. J'ai aucun problème avec ça. En revanche, qu'on arrête un match, ça me pose plus de problèmes parce que ça veut dire qu'on impose au plus grand nombre sa religion.
Et dans les faits, Antoine, est-ce que ce cadre établi par les instances est respecté sur les terrains ?
Eh bien, ce n'est pas si facile. C'est un sujet crispant même pour certains clubs. Un exemple de cas brûlant dans ce contexte est celui de Mahamadou Diawara. Appelé avec les moins de 19 ans, le jeune milieu de terrain de Lyon a finalement été remplacé dans la sélection de Bernard Diomède. Nos collègues de RMC Sport certifient aujourd'hui que le joueur, après avoir pris connaissance des règles en vigueur, a finalement décidé de décliner la sélection et de faire son retour en club. Une situation malaisante pour les différents acteurs, car ni la fédération ni l'entourage du joueur n'ont souhaité faire de commentaires à ce sujet.
Merci beaucoup Antoine Salva, votre story sport tous les samedis, tous les dimanches, tous les jours de la semaine d'ailleurs sur RMC est à retrouver en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h26.
RMC, la matinale week-end.
Le 10 minutes chrono.
Ah, on avait à vous offrir encore un beau séjour en Thalasso avec les hôtels Thalazur. C'est bien ça, ma chère.
Et c'est à l'hôtel Porte Camargue. Alors, c'est pour qui ce
séjour ? Eh ben, c'est pour Lionel. Bonjour Lionel.
Bonjour Lionel.
Bonjour tout le monde.
Le chanceux du jour.
Vous avez joué avec nous. Eh ben, vous repartez avec ce séjour, deux jours de nuit.
Oh, formidable.
Porte Camargue, oui, vous connaissez ?
Oh, oui, ça va être génial.
Vous connaissez Porte Camargue ?
Non, pas du tout, ça sera l'occasion justement.
À découvrir avec un hôtel situé sur le bord de la plage. Profitez bien Lionel.
Eh bien, merci beaucoup, merci RMC.
Merci d'avoir joué avec nous. Merci d'être avec nous sur RMC, dimanche 24 mars, 8h30. L'heure pour vous de ne rien manquer de l'actualité.
Tout ce qu'il faut savoir, toute l'actualité en 5 minutes avec vous Anaïs Castagna, bonjour.
Bonjour Peggy, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le Kremlin pointe du doigt l'Ukraine après l'attentat de vendredi. Journée de deuil national en Russie aujourd'hui. Une bonne claque à 3 mois de l'Euro. Les Bleus ont été battus par l'Allemagne 2-0 hier à Lyon en match de préparation. Et puis le printemps du cinéma commence aujourd'hui.
Vladimir Poutine pointe du doigt Kiev après l'attaque qui a fait au moins 133 morts dans une salle de concert près de Moscou.
Dans une allocution télévisée hier, le président russe a promis de châtier les coupables. Il affirme que les quatre auteurs de l'attentat ont été arrêtés alors qu'ils se dirigeaient vers l'Ukraine. En revanche, pas question de commenter la revendication de l'État islamique. Écoutez la réaction de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien accuse Vladimir Poutine de rejeter la faute sur son pays.
Ils sont venus en Ukraine, brûlent nos villes, ils torturent et violent notre peuple et l'accusent ensuite. Ils ont envoyé des centaines de milliers de leurs terroristes sur notre terre ukrainienne combattre contre nous et ils se moquent de ce qui se passe à l'intérieur de leur propre pays. Poutine, au lieu de s'occuper de ses citoyens russes, de leur parler et rester silencieux, pensant à comment attirer cela vers l'Ukraine, tout est absolument prévisible.
À noter que la Russie observe une journée de deuil national aujourd'hui. Au lendemain de cette attaque, Gabriel Attal a réagi. Le Premier ministre a exprimé le soutien du gouvernement français au peuple russe. Nous n'avons jamais confondu le peuple russe avec ses dirigeants, dit-il.
Gabriel Attal qui a fait du porte-à-porte hier.
À Issy-les-Moulineaux, en région parisienne, pour présenter Valérie Ayé, tête de liste Renaissance aux européennes. Et ça a donné lieu à une scène que je voulais absolument vous faire entendre ce matin. Écoutez, qui lui a ouvert la porte? Le père Fouras.
Oula, bonjour. Bonjour. On est chez le père Fouras.
Salut. En tout cas, un homme qui ressemblait au personnage emblématique de Fort Boyard, avec une longue crinière blanche, longue barbe blanche. C'était en fait un père de famille déguisé à l'occasion d'un anniversaire. Père de famille qui pensait ouvrir à un de ses invités. Mais c'est le Premier ministre, le vrai, qui a sonné.
Ça doit faire bizarre.
Ouais. Le foot et cet avertissement à 3 mois de l'Euro. L'équipe de France est inclinée hier face à l'Allemagne en match amical. Écoutez, ça avait très mal commencé. Les Bleus ont pris un but au bout de quelques secondes seulement.
Le coup de sifflet pour le coup d'envoi avec ce ballon pour les Allemands et un premier geste et une frappe. Oh, et le but. Oh,
exceptionnel.
6 secondes.
Le but le plus rapide encaissé de leur histoire. Au final, les Bleus ont été battus 2-0 par les Allemands.
Coup de sifflet final. La France est battue à Lyon sous les sifflets.
L'équipe de France sifflée, équipe de France sans inspiration, sans caractère hier soir. Antoine Griezmann qui était blessé a clairement manqué. Réaction attendue dès mardi face au Chili. Ce sera au stade Vélodrome à Marseille. Les mondiaux de patinage à Montréal et cette médaille de bronze pour le français Adam Siohim, champion d'Europe en titre, 19e seulement à l'issue du programme court. Il a réussi une remontée incroyable avec le programme libre sur la première marche du podium. Un Américain, Ilya Malinin, qui a impressionné sur cette musique. Je ne sais pas si vous reconnaissez...
C'est une série, ça, non?
Exactement, la musique de la série Succession.
Ah, voilà.
Sur laquelle il a réalisé... Est-ce que vous en faites autant, Mathieu Rau? Un quadruple Axel, exceptionnel.
C'est 4 fois le four sur soi-même.
Ouais, voilà. Ouais, exactement.
Bah, ça dépend des moments. Ça peut arriver.
En tout cas, c'est le seul patineur à avoir jamais réalisé cette figure en compétition. Et puis, ils sont inséparables, Alexis et Félix Lebrun. Les deux prodiges du tennis de table français ont reporté hier l'épreuve de double des championnats de France chez eux à Montpellier. Et c'est comme ça qu'ils l'ont célébré. Avec un clapping, ils ont battu en finale la paire Esteban d'Or, Florian Bourasso, 3-7-2. Une belle adversité selon Félix Lebrun, le plus jeune, qui reconnaît avoir été un petit peu stressé.
Ouais, forcément, il y avait un peu de stress de jouer à domicile, une finale contre des joueurs qu'on connaît très bien. Donc forcément, mais on a, je pense, su bien gérer. On était mené 1-7-0 et 2-7-1. Donc on a remonté à chaque fois et franchement, ouais, c'était magnifique comme match.
Maintenant, place au simple où Félix espère affronter Alexis en finale. Enfin, un mot de F1 pour vous dire que l'Espagnol Carlos Sainz a remporté le Grand Prix d'Australie cette nuit devant son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, le monégasque. Max Verstappen, le triple champion du monde en titre, a dû abandonner, victime d'un problème mécanique sur sa Red Bull. Et puis, tout ce cinéma aujourd'hui. Parce que le printemps du cinéma commence aujourd'hui avec des places à 5€ jusqu'à mardi dans 6000 cinémas. Initiative bienvenue alors que la fréquentation des cinémas marque le pas. On va pas se mentir, c'est clairement une question de prix. Comme le dit Marie, étudiante qui compte bien profiter de cette occasion pour se rattraper.
Je suis en train de regarder justement pour essayer d'en voir deux à la suite, parce que j'adore ça.
Je pense que là, il y en a pour tous les goûts, surtout en ce moment, il y a de tout.
J'hésite entre Heureux Gagnant ou Il reste encore demain. Voilà.
Franchement, 5 euros, ça me paraît bien. Bien sûr qu'il y a des films qui vaut plus de 5 euros, mais plein de fois, je me suis dit, ah non, je vais aller, c'est trop cher. 5 euros, c'est bien.
Mais oui, elle a raison, Marie, il faut en profiter. Le printemps du cinéma, ça commence donc aujourd'hui.
Le printemps est arrivé sur ta maison.
En grande forme, Alice. On connaît tout le programme de votre dimanche. Le cinéma, pourquoi pas, on parlait du barbecue.
Oh là, j'ai amis. Aussi des trucs un peu moins drôles, programme.
Oui, c'est. Ah bon?
Ouais.
Avec les enfants,
bah,
c'est ça?
Non. Bah, vous savez, c'est le printemps, et qui dit printemps dit.
Arrangement.
Ouais.
On va en parler.
Mais moi, j'ai autre chose au programme depuis vendredi. Là,
faites-moi rêver un peu.
Tout ça, vous savez ce qui va se passer pendant toute la semaine jusqu'à vendredi.
Ah bah voilà, je rêve.
Le coffre RMC
qui est de retour
avec jusqu'à 50 000 euros. Vous l'ouvrirez vendredi si vous êtes sélectionné. En attendant, vous écoutez RMC tout au long de la journée, toute la semaine. Et à un moment, il peut se passer ça. La petite alerte.
Et là, vous avez 5 minutes à ce moment-là pour envoyer coffre au 732-16 pour vous inscrire.
Coffre au 732-16 pour vous inscrire, retenez bien. Et si vous entendez la petite alerte, c'est 5 minutes et c'est à n'importe quel moment.
Exactement.
Donc vous restez sur RMC, c'est une obligation légale. C'est comme ça. Sinon, amende de 50 000 euros.
Oui, bien sûr.
Il est 8h37.
À suivre dans la matinale week-end.
On est donc ensemble jusqu'à 9h30. Huile d'olive ou huile de colza? Vous savez choisir, vous, ou pas? C'est un peu difficile, c'est un peu compliqué de s'y retrouver, de savoir laquelle choisir pour quel usage. Perico Legas est avec nous, le beurre et l'argent du beurre tout à l'heure, ou l'huile et l'argent de l'huile à 9h10.
Et à 8h50, le coup de main qu'on soit, Anaïs Castagna, vous le disiez, grand rangement de printemps?
Oui, je vais vous aider, sans venir, faut pas exagérer non plus, je vais vous donner des conseils.
À tout à l'heure, 8h50 pour tout ranger. D'abord, on va prendre la direction de Moscou. Après cet attentat, les Occidentaux auraient dû appeler Poutine et lui présenter leurs condoléances en ne le faisant pas. Ils lui rendent service. Mais qui dit cela? Eh bien, c'est l'écrivain russe Vladimir Fedorovski. Pourquoi? Il va nous dire. Il est notre invité dans 2 minutes sur RMC.
La matinale week-end.
Mathieu Roux.
Bienvenue sur RMC, il est 8h41.
L'entretien RMC.
Et l'invité de l'entretien RMC ce matin, c'est vous, Vladimir Fedorovski, auteur de Napoléon face à la Russie, aux éditions Ballant.
Bonjour à vous.
Bonjour.
Merci vraiment.
Je tiens à vous corriger tout de suite.
Oui.
Je suis écrivain d'origine russo-ukrainien, le plus édité en Europe, Napoléon face à la Russie, qui est sorti avant-hier. C'est le 55e livre que j'ai sorti.
Vous faites bien de le préciser, j'allais le faire. Et j'allais même ajouter que votre voix compte autant que parfois elle dissonne dans le discours sur la Russie. On avait envie de vous entendre ce matin en ce jour de deuil national en Russie après l'attentat dans une salle de concert en banlieue de Moscou. Dernier bilan, 133 morts. Envie de vous entendre pourquoi? Parce que Vladimir Poutine développe et impose sa vérité. Pas un mot hier sur l'État islamique dans sa prise de parole. Tout a été fait pour insinuer que l'Ukraine est derrière cet attentat. Pourquoi Poutine fait-il cela?
Non, je tiens à vous nuancer. Poutine, à la différence d'ailleurs de ce que vous faites, aujourd'hui, il n'a pas encore de données précises sur les auteurs de l'attentat. Ils ont été appréhendés, ils ont été 4, ils sont allés du côté de la frontière ukrainienne. Ça, c'est le constat, ce que nous savons. Et franchement, comme vous avez oublié de dire que j'étais diplomate et même libérateur des attaches autrefois, les déclarations des uns et des autres, on ne peut pas les prendre encore pour
la monnaie courante. Il est simplement prudent,
alors. Personne ne sait qui sont les auteurs d'attentats. Vous savez, le président ukrainien dit que c'est Poutine, les Américains disent qu'ils savaient que c'était les islamistes, mais il n'y a pas de preuve pour l'instant. Alors, il faut être prudent, et Poutine, il était tout simplement prudent. Cela dit, c'est une tragédie absolue. Absolue, on disait pour les Russes, le deuil national, mais c'est une tragédie pour tout le monde. Finalement, les Allemands, tout à l'heure, j'ai regardé, ils ont dit qu'ils sont aussi exposés, vous savez, ce que racontent les islamistes pour les Jeux Olympiques, pour tout le monde, pour moi, avec mes origines, je regrette beaucoup que c'est une occasion manquée pour rétablir les contacts qui ont été, hélas, rompus. Et à la différence d'autrefois, le 11 septembre, Poutine a pris le téléphone et il a téléphoné au président américain.
Alors justement, Vladimir Fedorovski, c'est ce que vous dites. Vous dites hier, et c'est vrai, les dignitaires, les chefs d'État étrangers ont réagi, parfois tardivement, mais dans un sens assez strict minimum. Vous dites ils auraient dû appeler Vladimir Poutine, lui présenter leurs condoléances, et en ne le faisant pas, ils lui rendent service. Pourquoi dites-vous cela ?
Ah, parce que on assiste à une sorte de radicalisation vertigineuse de la situation. Je dois vous dire, la société russe est tellement remontée, elle considère que c'est un acte de sabotage par rapport à l'unité nationale russe, par rapport au patriotisme russe, à tel point que Poutine devient presque un personnage le plus modéré. Et simplement pour mon expérience, je vous dis, l'époque, quand on ne s'est pas trompé des adversaires le 11 septembre, quand l'Occident et la Russie ont été unis des efforts, hélas, c'est révolu. Et en plus, sur le terrain, il faut comprendre, les alertes du président Macron, ils ont été tout à fait raisonnables, parce que la situation militaire en Ukraine est dramatique, à tel point que ce qui reste aux Ukrainiens, c'est le sabotage. On assistera à une sorte de, je dirais, palestinisation du conflit ukrainien et peut-être une vietnamisation avec les escalades étape par étape.
Donc si je vous suis bien, ce manque d'unité face au terrorisme est une étape majeure dans le conflit qui oppose la Russie à l'Ukraine depuis maintenant 2 ans et aura des conséquences en Occident.
Évidemment, à l'Occident, parce que aujourd'hui, vraiment, je pèse mes mots. Vous savez, j'ai géré les conflits avec Kissinger autrefois au Proche-Orient directement. Je tiens à vous dire, vous comprenez, nous vivons maintenant le moment peut-être le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas, et peut-être tout court. Et à ce moment-là, il faut être très pointu dans l'analyse, ce que vous faites avec votre radio, qu'on vous dit obligation légale de vous écouter, mais d'autre part, il faut être
une boutade,
vraiment
évidemment.
Voir la perspective. Et la perspective, hélas, ça m'effraie. C'est pour ça que je dis, il faut rétablir les contacts le plus rapidement possible. En tout cas, il ne faut pas se tromper des adversaires. Le terrorisme, c'est le mal absolu qui peut nous guetter. Très vite, comme je parle arabe, je vois ce qu'ils disent à propos des Jeux Olympiques, ça me fait effrayer.
Vladimir Fedorovski, vous connaissez Poutine, on l'entend, vous connaissez la société russe par cœur. Quelle issue pour ce conflit ? Y a-t-il une issue et laquelle ?
Évidemment, l'issue, c'est de rétablir le contact le plus vite possible. Comme j'ai des origines ukrainiennes, pour être franc, j'ai jamais compris pourquoi l'Ukraine neutre, indépendant, membre de l'Union européenne avec les garanties peut-on dans le domaine de sécurité, à quoi ça gêne? Il faut qu'on arrête cette escalade, cette vietnamisation du conflit qui peut nous ramener à la guerre totale. Et je pèse mes mots, je ne pense pas à mes livres. J'ai bien vécu avec Napoléon face à la Russie, mais je pense à nos enfants, à nos petits-enfants.
Aujourd'hui, après cet attentat en banlieue de Moscou, ce ne sont plus seulement des menaces, ce peut être une réalité.
C'est plus que jamais la réalité, et la réalité du terrain. Vous savez, avec mon fibre ukrainien, je suis aussi très inquiet par rapport à la situation militaire. Les Russes avancent dans le contexte très difficile de l'imprévisibilité de la situation, et c'est pour ça que vous avez bien fait d'analyser cette situation vraiment d'une manière très pointue. Encore une fois, je vais citer Napoléon, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de le tuer.
Napoléon face à la Russie, c'est votre dernier livre, effectivement, qui vient de paraître aux éditions Ballant. Vladimir Fedorovski, votre parole est importante ce matin. Prudence, dites-vous, analyse et surtout grande inquiétude. Je vous des annonces, comme on dit, du mieux possible. Ancien diplomate, auteur de ce livre aux éditions Ballant, l'un des écrivains d'origine russe et ukrainienne les plus publiés en France. Merci encore d'avoir accepté l'invitation d'RMC ce matin. Bonne journée à vous.
Un grand plaisir et toujours écouter votre émission le matin de dimanche.
Eh ben voilà, encore un fidèle d'RMC et de la matinale week-end. Restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 9h30 et dans un instant, c'est le grand ménage de printemps avec Anaïs Castagna.
RMC, la matinale week-end.
Mathieu Roux.
On va se réveiller en douceur en ce dimanche matin avec Laurine Hill, la voix des Fugees, bien sûr, enfin célébrée à Los Angeles. C'est dans le bonus RMC dans 2 minutes.
Mais d'abord,
RMC.
Le coup de main conso.
RMC s'engage pour votre pouvoir d'achat. Comment faire des économies au quotidien avec Anaïs Castagna.
Anaïs, le printemps vient de commencer. Vous allez nous aider à nous lancer dans un grand ménage printanier.
Oui, on va pas se mentir. Hein, le plus dur, c'est de se motiver parce qu'on a tous rêvé d'avoir le pouvoir de Mary Poppins, de ranger parfaitement les affaires en un claquement de doigts.
C'est le morceau de sucre qui est.
Mais sauf erreur de ma part, ça, en vrai, ça n'existe pas. Enfin, quoique.
Bah, venez chez moi.
Ah oui. Je demande à voir. J'ai trouvé en tout cas une coach en rangement qui m'a donné des tas de conseils pour ceux qui veulent se lancer dans un grand ménage de printemps. Elle s'appelle Sandra Fradin. Écoutez ce qu'elle vous suggère.
Le premier conseil, ça va être de faire le tour de la maison. Vous allez dans toutes les pièces, vous prenez un petit calepin et un stylo et vous allez noter toutes les zones que vous voulez cleaner.
Ensuite, vous élaborez un véritable plan d'action. Mercredi matin, cuisine. Samedi, salon. Vous l'écrivez dans votre agenda, ça vous aidera à vous y tenir.
Ouais, enfin. Attends, on a quand même du boulot, tu sais, des devoirs à la maison.
C'est clair.
Avant de s'y mettre.
Bah, ouais. Faut bien, ouais.
Excusez-moi, moi, il m'en faut un peu plus pour me motiver quand même. Ah, hein.
Commencez par la zone la plus facile, Peggy, la zone la plus facile à nettoyer. Comme ça, c'est vite réalisé, on n'est pas découragé. Et puis surtout, amusez-vous.
Bien sûr.
Moi, je vous conseille de prendre ce moment-là comme un instant un peu sympa, ludique. On peut le faire en famille, on s'y met tous ensemble. Chacun trie ses affaires. On peut même faire un concours de celui qui enlèvera le plus de choses.
Ah bah tiens, comme dans Marie Poppins, finalement.
Une idée.
Bon, ensuite, on s'y prend comment?
Une fois que vous avez choisi votre pièce, vous sortez tout, vous vous séparez évidemment de ce qui est inutile en arrêtant de vous dire au cas où, faut arrêter, hein, ça sert à rien du tout.
Bon, et ensuite on fait la poussière.
On commence toujours par le haut parce que la poussière redescend, on nettoie les placards avec un chiffon humide, du vinaigre blanc, voire du liquide vaisselle pour dégraisser, et on réfléchit à des rangements qui peuvent nous faciliter la vie quotidiennement. Écoutez.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le cerveau est feignant. Donc quand il y a plus de 3 gestes à faire, eh bien, on range pas les affaires. Par exemple, si on doit ouvrir un tiroir, ouvrir le couvercle d'une boîte et mettre les piles usagées dans la boîte, refermer le couvercle et fermer le tiroir, la pile usagée va finir sur le dessus de la commode. Donc, on ouvre le tiroir et on jette la pile dans un petit récipient sans couvercle. Et là, ça fait 2 gestes. Mais ça, et c'est beaucoup plus facile et très efficace.
Mais tout le monde se reconnaît tellement là-dedans.
Mais c'est tellement vrai. Arrêtez de mettre des couvercles. Non, mais c'est vrai. Je trouve
et
que c'est
des boîtes de
miracle.
Boîtes.
Oui, c'est ça. Tout ce que j'utilise fréquemment doit être hyper accessible aussi. Et puis, le bon conseil, c'est de faire des photos avant-après. Comme ça, vous réalisez tout ce que vous avez effectué. C'est très jouissif. D'ailleurs, je sais que vous êtes nombreux à y aller à reculons, mais dites-vous qu'à l'arrivée, ce sera hyper satisfaisant. Près de la moitié des Français associent le rangement au bien-être. Et un tiers pense que ça permet de remettre de l'ordre dans sa vie. De l'ordre et de l'air aussi.
Ah oui, carrément, on a senti bien ça.
C'est une question de survie.
En même temps, c'est une bonne musique pour faire le ménage.
Ah bah ouais, ça motive. Ouais, c'est dynamique.
Vous me direz ce que c'est. Écouté,
j'attends la vidéo de vous en train de faire le ménage. Ouais,
ouais. J'allais dire, vous nous direz ce que ça a donné la semaine prochaine, Anaïs, chez vous.
Bien sûr.
Vidéo avant-après. Hein.
Bien sûr, mais vous savez, moi j'ai la solution. J'ai maman aujourd'hui à la maison. elle a rangé tous mes placards.
Oh, et on embrasse Madame Castalia et toutes les mamans du monde. Il est 8h53.
La matinale week-end.
Le bonus RMC.
Peggy Broche, parlons de Laurine Hill.
L'ancienne chanteuse des Fugees sera honorée au Grammy Hall of Fame le 21 mai prochain à Los Angeles. Alors, petite explication si vous ne connaissez pas les Grammy Hall of Fame. C'est en fait un Grammy Award spécial qui a été créé en 1973 pour honorer les enregistrements musicaux qui ont au moins 25 ans et qui ont marqué l'histoire de la musique par leur qualité, leur durabilité, qui ont eu une influence dans le patrimoine culturel. Et alors, cette année, parmi les albums récompensés, le seul et unique de la pionnière du hip-hop, Laurine Hill, ex-membre des Fugees, The Miseducation of Laurine Hill, sorti en 1998. Sur cet album, il y avait ce titre, vous le reconnaissez évidemment, Doo-Wop. mais aussi celui-ci. To Zion, cet album de Lauryn Hill s'est vendu, écoutez bien, à plus de 18 millions d'exemplaires et lui a permis d'être la première femme à remporter 5 Grammys la même année. Rendez-vous donc le 21 mai prochain pour la cérémonie des Grammy Hall of Fame 2024 au Novo Theater à Los Angeles, suivi d'un concert. Et donc, parmi les récompenses, c'est Lauryn Hill avec cet album. Autre extrait, X Factor, mais aussi Three Feet High and Rising du groupe De La Soul en 1989, l'album éponyme du groupe Buena Vista Social Club sorti en 96, Appetite for Destruction de Guns N' Roses en 87, ainsi que des titres de Donna Summer, Doobie Brothers et beaucoup d'autres.
Lauryn Hill pour un doux dimanche en se réveillant sur RMC. Bientôt vos infos de 9h.
RMC, la matinale week-end.